Alors, le Premier ministre Matata Ponyo s'engage à démanteler les réseaux mafieux et la fraude enregistrée au poste frontière de Lufu, au Congo central, poste qui sépare la RDC de l'Angola. Le réseau provincial des ONG de défense des droits de l'homme, Sud Kivu, demande au gouvernement central d'entamer sans délai le processus de dégagement des gaz méthane et carbonique en sursaturation dans le lac Kivu. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Baudouin Saïlé Mbalanga, il est éditeur du journal La Tchopo qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Baudouin Saïlé Mbalanga.
Bonsoir tout le monde, bonsoir chers confrères.
Giscard Koussema, il est directeur général du canal Future Télévision. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy et bonsoir à mes deux collègues.
Et elle est à Bukavu, c'est madame Solange Lushiku Nsimire, elle est éditrice du journal Les Souverains, paraissant à Bukavu sur Kivu. Elle est aussi vice-présidente de l'UNPC. Bonsoir madame Solange Lushiku Nsimire.
Bonsoir, bonsoir Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le Premier ministre Matata Ponyo s'engage à combattre la fraude au poste frontière de Lufu. Le Reprodoc tire la sonnette d'alarme par rapport au danger que représente le gaz méthane et carbonique dans le lac Kivu. Comment la presse a analysé cette actualité? Suivons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la visite du Premier ministre Matata Ponyo au poste frontière de Lufu entre la RDC et l'Angola. L'avenir titre pour mettre un terme à la fraude, Matata Ponyo en visite d'inspection à Lufu. En effet, selon ce quotidien, on fait état de la contrebande à Lufu, une pratique qui fait perdre des recettes énormes au trésor public congolais. Au journal de poursuivre qu'on en veut pour preuve, des milliers de camions remorques qui entrent à ce poste frontalier en provenance de l'Angola avec des volumes importants des marchés évalués à des dizaines de milliers de dollars. Sur RadioCapi.net, on peut lire le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo s'engage à démanteler les réseaux mafieux et la fraude enregistrés au poste frontière de Lufu situé à environ 100 km de Matadi qui sépare la RDC de l'Angola. Le chef de l'exécutif a fait savoir que les recettes que génère ce marché échappent en grande partie au trésor public. Retombée de la visite du Premier ministre dans la zone frontière entre le Congo central et l'Angola, Lufu, bientôt la construction d'un poste de douane pour stopper l'évasion fiscale, annonce Forum des As. La référence plus informe que Matata Ponyo met en garde les responsables locaux qui soutiennent la fraude à l'issue de sa visite d'inspection à Lufu. Quittons Lufu pour nous rendre à présent au Sud Kivu, où RadioCapi.net renseigne que les réseaux provinciaux des ONG de défense aux droits de l'homme Sud Kivu demandent au gouvernement central d'entamer sans délai le processus de dégagement du gaz méthane et du dioxyde de carbone en saturation dans le lac Kivu. Dans un point de presse tenu lundi 24 août dernier à Uvira, le secrétaire exécutif de ce réseau a affirmé que le gaz méthane qui est à 9 mètres de la surface des eaux constitue un danger pour les êtres vivants. D'après lui, plus de 50 chèvres attachées dans différents milieux sont mortes dimanche dernier suite au gaz dégagé par ce lac.
Merci Kéline Kouté. Un commentaire, Monsieur Baudouin Saïlé Mbalanga, éditeur du journal La Tchopo qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la CENI qui a annoncé qu'elle est en train d'étudier les voies et moyens d'harmoniser son calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces pour les rendre compatibles avec le processus de mise en place des nouvelles provinces. Et comment vous comprenez cette annonce de la CENI?
Merci beaucoup, cher Guy, de la question. Le processus est irréversible. Les démembrements des provinces est déjà là, effectif. C'est un acquis. La confiance est là au sein de la population. On ne peut plus revenir à la case de départ. Le processus, aujourd'hui, s'est dératé. Parce que, par exemple, si l'avion décolle et les commandants de bord constatent qu'il y a des problèmes techniques, l'avion redescend à l'aéroport, vous comprenez? Alors, si, par exemple, le vice-premier ministre avait demandé qu'on puisse suspendre les directeurs de province et les conseils de district pour que les processus avancent, ça pourrait être une erreur de parcours, vous comprenez? Aujourd'hui, presque toutes ces provinces ne fonctionnent plus comme par le passé parce qu'il n'y a plus de confiance entre les gouverneurs sortants et la population. C'est ça la vérité. Si je prends l'exemple de Kisangani, il y a 4 provinces nées de l'ex-province orientale et chaque province devient autonome, même si on se complète après. Vous comprenez? Allons de l'avant, reprenons la démarche, on peut mettre même les directeurs de province intérimaires.
pour permettre à l'Assemblée provinciale provisoire,
merci,
vous comprenez, de se mettre en route afin qu'il n'y ait pas de casse, mon cher. Ne reprenons plus ces gens-là qui ont géré la République hier.
Merci.
Il y a eu beaucoup de fautes, papa.
Merci. Jusqu'à Koussema, directeur général de Canal Futur Télévision. Vous avez suivi Baudouin Saïd Mbalanga qui dit que le processus est irréversible. Est-ce que vous avez décelé un message dans cette annonce de la CENI?
C'est l'aveu de l'impuissance, simplement. Parce que lorsque des acteurs politiques ont démontré que le calendrier était irréaliste et dangereux, on leur a collé tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, cela paraît à l'évidence que le chaos est entretenu. Alors, au lieu d'harmoniser le calendrier, de parler avec des acteurs dans un cadre constitutionnel qui est là, ce sont des messages plutôt d'appel à la violation de la Constitution qui sont diffusés partout. Donc, on comprend tout de suite qu'on est en train de préparer en fait les chaos, et pourtant nous sommes encore en 2015, et qu'entre août 2015 et décembre 2016, il peut se passer beaucoup de choses, non? On ne parle plus de rien, on va jusqu'à dire que même l'élection présidentielle est hypothétique, alors qu'on a encore toute une année.
Madame Solange Lusukin-Simiré, vous êtes éditrice du journal Le Souverain qui paraît à Bukavu Sud Kivu. Vous êtes aussi vice-présidente de l'UNPC. Vous venez de suivre Giscard Koussema qui analyse l'annonce de la CENI comme étant un aveu de l'impuissance. Vous pensez que la CENI n'aurait pas les droits si elle constate qu'elle est butée contre beaucoup de difficultés dans ses processus électoraux et n'aurait pas les droits de les dire tout haut à tout le monde?
Moi, je pense que la CENI devait plutôt avoir honte de se prononcer comme cela, parce que la CENI doit se rappeler qu'elle a affaire à tout un peuple, hein, un peuple qui attend avec beaucoup de patience ces élections. Et donc, dire encore que la CENI n'est pas prête, ça peut quand même étonner tout le monde, étant donné que lorsque le calendrier avait été publié, et que on a suivi de plus près toutes les discussions et les débats qu'il y a eu autour de ça, tout le monde avait convaincu le peuple congolais comme quoi les élections auront lieu et que voilà, tout est fin prêt. Nous dire aujourd'hui que non, il faut peut-être attendre un moment pour aller jusqu'au bout, je pense que la CENI devait, de son côté, apprendre à respecter le peuple congolais.
Monsieur Baudouin Saïd Mbalanga,
la politique peut tout trancher, vous comprenez? Comme il n'y a pas d'argent, franchement il n'y a pas d'argent pour gagner toutes ces élections-là, mais le chef de l'État peut par exemple réfléchir deux fois et instruire le vice-premier ministre de l'Intérieur pour installer des gouverneurs intérimaires. Ça se fait, c'est faisable, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui les provinces ne fonctionnent presque plus correctement, papa. Les recettes, par exemple, dans certaines provinces, les recettes sont prises par certains députés. C'est clair, ils sont venus ici, le vice-premier ministre leur a donné des remarques.
Merci.
Ne bougez pas les recettes de l'État, mais ça se fait parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus confiance avec les anciens gouverneurs qui étaient là. Voilà.
Merci, Giscard Koussema. L'actualité, c'est aussi cette affaire de l'avion du Congo Airways. Au cours d'un point de presse tenu mercredi dernier à Kinshasa, le ministre en charge des relations avec le Parlement, M. Kikei Mulumba, a affirmé que la RDC avait déjà versé un acompte de 1 300 000 $ sur les 13 millions que la RDC doit à cette compagnie, la société minière Minico LLC. Votre analyse?
Écoutez, cette situation m'inspire, Guy Maté, deux commentaires, en fait, deux leçons. Le premier commentaire, c'est que c'est le rappel à tout le monde que la justice internationale existe et peut agir là où la justice locale montre ses limites. Vous le savez, généralement, les choses se passent ici comme si on était un non-État. Et donc, voilà une preuve qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent que l'impunité qui est consacrée ici ne passe pas ailleurs, on peut toujours être rattrapé. L'autre leçon, c'est la preuve de l'irrespect des engagements de l'État. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup de zones d'ombre d'abord, non seulement sur le mode d'acquisition de ces avions, mais il faut maintenant ajouter la fameuse dette. Donc, un contrat léonin dont on ne maîtrise pas les contours. Et tout d'un coup, ce sont des spéculations de tout genre. Et on peut également se poser la question sur l'itinéraire. Mais comment comprendre un avion acheté chez Alitalia dont les sièges est à Rome se retrouve à Dublin? Est-ce que cet itinéraire n'a pas été fait exprès pour essayer d'arnaquer encore une fois l'État congolais? Voilà des zones d'ombre. Donc, notre gouvernement ici ne procède jamais par anticipation. Donc, n'eût été cet article du journal irlandais, tout se passerait simplement comme cela. Et là, ce sont les réseaux sociaux qui ont remis à la surface cette affaire. Au lieu de nous apporter de la lumière, bien au contraire, c'est encore l'opacité. Et cette opacité, aujourd'hui, donne droit à des spéculations de tout genre. Des spéculations qui vont jusqu'à faire dire que le tout premier avion qui est Angel ici est en panne et cloué au sol.
Vous tirez ces informations de qui?
Mais c'est de notoriété publique, ça n'a été démenti par personne. Ouvrez les réseaux sociaux et suivez les médias.
Merci Madame Solange Lushikoun Simire. Quelle est l'actualité aujourd'hui à Bukavu, sur Kivu?
Oui, à Bukavu, l'actualité, c'est encore une fois les incendies. Apparemment, la série d'incendies a encore repris ces derniers temps. Il y a la commune de Kadutu, dans les quartiers populaires de Nyamugo, où il y a eu incendie de 34 maisons. On parle même de 36 maisons jusqu'à aujourd'hui. Et cet incendie-là a fait beaucoup de pertes. Il y a, par exemple, le centre de santé de Kanyamugo qui a connu beaucoup de dégâts. Et à côté, il y a un bar qui faisait la fierté de toute la commune de Kadutu qui a pris feu également. Et cet incendie est arrivé seulement quelques jours après celui qui s'est déclaré dans un quartier voisin il y a plus d'une semaine où trois enfants d'une même famille ont péri dans les feux.
Merci.
Et donc, chaque fois, c'est une série d'incendies qui étonne tout le monde et dont l'origine n'est jamais connue.
Merci. Notre premier thème de ce soir, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué vendredi dernier une visite d'inspection au poste frontière de Lufu à plus de 5 km de Matadi. But de cette visite, se rendre compte du fonctionnement du marché qui porte le même nom afin de lutter contre la fraude et canaliser les recettes dans les caisses de l'État. Notre envoyé spécial Guy Roger Nyampala était sur place. Voici son reportage.
Pour le Premier ministre Matata Ponyo, il est question d'assainir les réseaux mafieux et la fraude signalée dans ce marché transfrontalier entre la RDC et l'Angola. Les recettes que génère ce marché échappent en grande partie au trésor public, a fait savoir le numéro 1 du gouvernement. Au cours de cette visite, Matata Ponyo a également échangé avec les chefs des services œuvrant sur place. C'était en présence des ministres de l'économie, des finances, du gouverneur de la province du Congo central et du directeur général de la DGDA. En termes clairs, il ne s'agit pas d'interdire l'entrée de certains produits sur le sol congolais, mais plutôt de canaliser les recettes générées par ce poste frontalier dans le trésor public, selon le Premier ministre. Le numéro 1 du gouvernement a visité Lufu et après, à cette question, Matata Ponyo a déclaré réserver la primeur de cette visite au chef de l'État et les mesures qui s'imposent s'en suivront, a-t-il fait savoir. Notez que les produits provenant de ce marché de Lufu sont vendus dans des grands centres tels que Matadi, Lukala, Kipese et autres à bas prix. Depuis la cité de Lufu, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Monsieur Baudouin Saïd Ebananga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Chopo qui paraît ici à Kinshasa. Le Premier ministre s'engage à combattre les réseaux mafieux et la fraude au poste de Lufu. Comment vous analysez cet engagement pris par Monsieur Matata Ponyo?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Réfléchissons un peu froidement. Hein. Quelle est la pyramide des commandements au niveau de province? Aujourd'hui, Congo central. Il y a à la tête du Congo central, le gouverneur de province, et vers le bas, où il n'y a plus de directeur de province et encore moins de conseil district, il y a lancé comme ça des zones, devient aujourd'hui un jour des territoires. Alors, au niveau des provinces, comme le Congo central, il y a le gouverneur au-dessus, et vers le bas, il y a l'administration des territoires. Avant que le Premier ministre ne vienne là-bas, le centre de négoce de Lufu date d'une année, peut-être plus. Depuis tout ce temps-là, est-ce que l'administration du territoire est connue par la population locale, sa population à lui? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que l'administration du territoire tient des réunions avec les services spécialisés qui sont commis à sa disposition, qui sont au niveau des frontières? Il faut que le Premier ministre quitte Kinshasa à bord des Jeep 4x4.
toute une colonne pour aller à Loufou demander qu'on construise un poste frontalier, papa. Mais mon Dieu, c'est trop demandé.
N'est-ce pas que c'est une question qui touche à une frontière, hein, et on sait que les frontières sont gérées par Kinshasa.
Non, mon frère.
Par le gouvernement central.
Non, mais justement, quel a été d'abord l'apport du ministère du territoire? La ministère du territoire a fait un constat, a-t-il fait un rapport pour d'abord envoyer à son gouverneur de province? Et le gouvernement de province envoie les rapports à Kinshasa. Et dans notre état, pour construire ne plus que des installations sanitaires, il n'y en a pas, il faut que Kinshasa vienne. Non, Guy, non, nous devons avoir les deux pieds sur terre et réfléchir positivement. Je vois que c'est trop demandé au gouvernement central. La province a toutes les facilités du monde pour ne plus que construire un OSC. N'est-ce pas, mon frère? C'est honteux. C'est pas
merci,
bon. C'est
Jusra Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général du canal Futur Télévision. Comment vous analysez cette visite éclair de Matata à Loufou, au cours de laquelle il s'est engagé, n'est-ce pas, à combattre les réseaux mafieux et la fraude qui sévit à cette frontière?
Ce sont des effets d'annonce, simplement. Vous savez, cette situation est symptomatique de l'inefficacité de nos gouvernants à pouvoir canaliser et organiser les services frontaliers. Loufou inquiète aujourd'hui simplement à cause de sa proximité avec Kinshasa, parce que l'on sent maintenant toute la ruée, mais Loufou existe depuis des années, on n'en parlait pas, mais il existe beaucoup d'autres Loufou à travers le pays. Dois-je rappeler ici que la RDC a 9 voisins et que toutes les frontières sont poreuses? Mon confrère Baudouin qui est là ne pourra pas me contredire. En province orientale, qu'est-ce qu'on consomme de Kinshasa? Toutes ces localités qui sont frontalières ont leur Loufou également. Mais tous ceux qui sont sur la rivière Kwango ici, dans l'ex-province de Bandundu, il suffit de traverser les fleuves. Et ils sont à Loufou, donc il y a d'autres Loufou. Donc le problème ici, c'est un épiphénomène. Il faut voir le problème dans sa globalité. Comment sont gérées nos frontières? Même les postes frontaliers
qui sont connus. Donc il faut étendre cette lutte à toutes les frontières.
Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'à Sumbalesa, qui est l'une des grandes portes d'entrée ici, un rapport gouvernemental nous a fait entendre ici qu'il y avait des problèmes de fraude. Ils se sont arrêtés à dénoncer, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure. Mais lorsque l'impunité est consacrée jusqu'à ce niveau-là, on va s'en prendre à un poste frontalier qui vend des bandes hygiéniques ici et de boîtes de conserve, simplement à cause de sa proximité avec Kinshasa. Mais il est allé à Zongo, allé à Kassindi, allé à Kasumbalesa. Mais voyez toute la frontière congolaise.
Il faut commencer quelque part. Il a commencé par Loufou.
Commencer d'abord par ce qui est.
Il va aller
Loufou n'existe même pas dans la cartographie, on l'a dit. Il y en a qui se font, qui pensent que Loufou n'a pas de toilettes, n'a pas de. Mais Loufou est un village, même pas un village en fait. C'est un aire de repos. Loufou c'est rien. C'est même pas un village. Vous comprenez? Commencez d'abord par organiser.
Même si ce n'est pas un village, mais les activités qui sont effectuées là-bas font perdre beaucoup d'argent au trésor public.
Il faut que l'État congolais réagisse. Mais ça prouve qu'il y a un vide de gouvernance, simplement un problème de gouvernance. Écoutez, pour aller dans nos frontières, à chaque point frontalier, en face, vous avez des services bien organisés, des infrastructures qui répondent aux normes des services informatisés, avec une barrière qui répond aux normes, mais de l'autre côté, du côté congolais, c'est un bambou, une liane, et puis on trouve 2-3 personnes sur des escabeaux, et vous dites, lorsque vous mettrez des gens dans des gens, ces genres de conditions qui se regardent en face pendant longtemps. J'ai été à plusieurs postes douaniers, j'étais à Kassindi, j'étais à Bounagana, je sais de quoi je parle.
Merci, madame.
Mais qu'il aille d'abord à ces niveaux-là.
Merci, Giscard. Madame Solange Simire Louchikou, éditrice du journal Les Souverains, paraissant à Bukavu Sud Kivu, aussi vice-présidente de l'UNPC, n'est-ce pas que l'engagement du Premier ministre sur Loufou tombe à point nommé, hein? On l'a dit ici, hein? Les trésors publics perdent beaucoup d'argent par rapport à cette fraude, n'est-ce pas, qui sévit à cette frontière.
Bon, peut-être que ça pourrait être considéré comme cela, que c'est tombé à point nommé. Mais moi, si vous parle, étant à Bukavu, je ne le dirai pas parce que, tout simplement, ma conclusion, le Premier ministre est toujours intéressé par l'odeur de l'argent. C'est pourquoi il est allé à Loufou s'occuper de cette question-là. Mais si nous rentrons ici chez nous, à l'est du Congo, avec nos frontières qui sont toujours poreuses, et où les hommes en armes entrent comme ils veulent et ils sortent comme ils veulent. Moi, je peux poser la question au Premier ministre de savoir, est-ce que c'est l'argent qui compte entre l'argent à Loufou et l'insécurité qui fait que les gens traversent la frontière par la plaine de la Rubizi et qu'ils traversent avec armes et munitions, et après c'est l'insécurité qui est observée sur toute la partie est du Congo. Qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui serait urgent? Bon, moi je ne dirais pas que c'est tombé à point nommé vraiment.
Madame Solange, c'est pourquoi Giscard a proposé que cette démarche puisse s'étendre à toutes les frontières.
Moi, je demanderais qu'on prenne d'abord la question des sécurités, des questions sécuritaires, avant de prendre des questions qui touchent l'économie ou l'argent. Parce que moi, je pense que lorsque les gens ont la sécurité avec eux, ils peuvent vaquer paisiblement à leurs occupations. Permettez-moi de vous donner un exemple. C'est hier, à Kimuka, dans la localité de Kavulambo, dans la plaine de la Rubizi, à la frontière avec les Rukoko au Burundi. Les habitants de cette partie déplorent la traversée frauduleuse de la rivière Rubizi, parfois nocturne par des personnes armées non autrement identifiées, qui quittent Rukoko et Kigwema du côté Burundi pour Kimuka dans la plaine de la Rubizi. Ils traversent avec armes et munitions, et des gens parlent des FNL qui vivent à Rukoko au Burundi et qui viennent s'approvisionner chez nous. Quand ils viennent s'approvisionner, parfois même, Ça permet la circulation des armes et les aires de petits calibres qui font que nous ayons aujourd'hui beaucoup de voleurs armés, nous ayons des gens qui viennent notamment s'introduire dans des maisons des gens et tuer et voler, ils font tout ce qu'ils veulent. Et donc pour moi, la question de l'économie de l'argent, ce n'est pas une question qui pèse devant des questions sécuritaires qui nous touchent ici à l'est du Congo.
Monsieur Saïd Mbalanga, vous avez suivi Madame Solange Lusuku qui estime qu'on devait commencer d'abord par solutionner les questions sécuritaires avant de se pencher sur les questions financières. Mais lorsque le Premier ministre descend dans une frontière et il prend l'engagement, n'est-ce pas, de combattre la fraude, de laisser aller qu'on observe à cette frontière, n'est-ce pas que cela va aussi dans le sens de combattre l'insécurité et qui peut être, n'est-ce pas, provoquée par les laxismes qui est observé.
Monsieur Guy, je vous dis tout simplement que la RDC, ce n'est pas un petit territoire. C'est 2 355 000 km², c'est vaste comme autant de pays à l'étranger. Vous comprenez? Le gouvernement de la République peut faire diligence pour mettre en place rapidement même des gouverneurs intérimaires. C'est faisable, mon frère ami, pour sécuriser tout l'espace territorial. On a des problèmes, pas seulement à Loufou, on n'a pas de problème, comme m'a dit ma consoeur de Bukavu. Je suis confiant, j'ai dit tout simplement que le Premier ministre est descendu, c'est vrai, mais avant que le Premier ministre descende, il faudrait que la province bouge. Mais que le gouvernement de province descende sur les lieux pour constater que franchement, ici, il y a des fraudes.
Vous pensez que cela n'a pas été fait? Vous pensez que l'autorité provinciale n'est jamais descendue sur les lieux?
Mais lorsque le protestant descend sur les lieux, il faut quand même qu'il y ait écho, il faudrait que les médias en parlent également. Il ne faut pas toujours attendre le président de la République pour qu'on en parle abonnement, les premiers ministres abonnement, non. Mais j'apprends parfois ici sur la RTNC, hein. Il y a un administrateur du territoire de programme de Bolobo qui travaille là-bas, qui a communication avec la chaîne nationale. Oh, voilà, ici chez moi, je vais arrêter les bandits, tout. Ce n'est pas seulement les premiers ministres, ce n'est pas seulement les chefs de l'État. Le gouverneur, l'administrateur du territoire, tout le monde doit mettre la main, même le chef de quartier doit mettre la main dans la poche pour qu'on lui donne les moyens de sa politique, mon cher ami.
Merci Giscard Koussema. Le chef du gouvernement congolais a affirmé qu'il n'a pas l'intention d'interdire l'importation de produits en provenance de l'Angola, mais plutôt de canaliser les recettes générées dans ces commerces vers les caisses de l'État. Mais certains observateurs se demandent comment cela va se passer, étant donné que le Premier ministre n'a pas dit comment il compte faire pour concrètement combattre cette fraude.
Pour paraphraser ma consoeur Solange, on connaît son goût prononcé pour l'argent, mais il n'y a pas que l'argent qui devrait l'intéresser.
Mais la République a besoin de beaucoup d'argent, n'est-ce pas, pour financer ses projets de développement.
Mais il faut commencer par restaurer l'autorité de l'État, la bonne gouvernance. Commencer par créer des structures. Pourquoi
lorsqu'on dit qu'on va prendre des mesures, est-ce que ce n'est pas aussi dans le sens de restaurer cette autorité de l'État? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à la frontière entre l'Angola et la RDC, au niveau de l'Oufou, il y avait absence de l'autorité de l'État. Alors, lorsque le Premier ministre descend sur les lieux et il dit qu'il va prendre des mesures, certainement que c'est aussi pour restaurer cette autorité de l'État.
Des mesures pour des papiers hygiéniques, pour des pampers, parce que l'Oufou est connu pour ça. Non, je pense qu'au-delà de l'argent qui l'intéresse, il faut inscrire cette problématique, comme je l'ai dit, dans un cadre plus ou moins global. Pourquoi les gens font la ruée vers l'Oufou? C'est simplement sur la quête de la survie. Simplement. C'est parce que c'est moins cher, c'est tout proche, et puis c'est des qualités douteuses. Intéressons-nous d'abord à la qualité de ces produits que l'on vend à l'Oufou, plutôt que de chercher à ponctuer l'argent, même sur des produits de mauvaise qualité.
Et tout cela serait lié à la présence de l'État sur place, parce que c'est les services de l'État qui doivent contrôler, n'est-ce pas, la qualité de tous ces produits qui entrent au Congo.
Je veux dire qu'à haut niveau de l'Oufou et dans toutes les frontières, l'OCC est là. Que fait l'OCC? Office de contrôle. On contrôle quoi? Les vides ou bien les concrets?
Il a dit que le premier bureau de l'État se situe à plus de 300 mètres de la frontière. Donc, entre la frontière et ces bureaux de la DGDA, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Recadrons le débat pour dire aux autorités de Songololo, si elles sont incapables de travailler, qu'ils démissionnent comme lui-même vous l'avez démissionné à l'époque de Maréchal. Ayez quand même la culture de démissionner. Je démissionne, moi X, je démissionne parce que je suis incapable de poser des actes recommandés par l'État congolais.
Merci, voilà. Madame Solange Lushiku Nsimire. Moins d'une semaine après la visite du Premier ministre, les opérateurs économiques se plaignent déjà suite à l'augmentation des prix des biens. Selon ces commerçants, cette majoration est liée aux frais des douanes qui sont très élevés. Madame Solange, c'est le revers de la médaille, n'est-ce pas, de cette démarche du Premier ministre, hein. D'un côté, on veut combattre la fraude, et de l'autre, c'est les populations qui en subissent les conséquences, les retombées.
Mais c'est toujours ça, c'est toujours ça. Au Congo, lorsque on prend des mesures, on ne se met pas à la place du petit peuple. Et c'est pourquoi ce qui arrive à l'Oufou, ça ne peut étonner personne. Mais moi, je demanderais quand même aux gens qui nous dirigent s'ils sont conscients qu'ils dirigent, qu'ils gouvernent des êtres humains, qu'ils commencent d'abord par contrôler les frontières en réglementant les entrées et les sorties, au lieu de se mettre à contrôler les petits marchands. Marchands ou commerçants, c'est la même chose. Ils traversent quand ils vont s'approvisionner là-bas. Et ils vont s'approvisionner là-bas parce qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie dans le pays. Bon, moi je pense qu'avant de tourner les yeux vers l'Oufou et les marchands qui subissent maintenant le poids de la décision au bout du passage du Premier ministre, il serait mieux de s'atteler beaucoup plus à la question liée au développement et à la bonne gouvernance comme il l'a commencé avec beaucoup de projets conçus par-ci par-là. Mais de se rappeler aussi que Kinshasa n'est pas le Congo, que seul Kinshasa ou le Bas-Congo ne sont pas le Congo, qu'il y a aussi le Congo dans d'autres provinces et qu'il faut aussi s'occuper des questions cruciales qui se posent dans ces provinces là-bas. Par exemple, si les gens de Kasumbalesa peuvent se plaindre de la mafia autour de la frontière, c'est ça le problème qu'il y a chez eux. C'est comme nous ici à l'Est, nous nous plaignons du manque de sécurité. Et si nous voyons l'État présent ici, nous venir avec un discours des mesures qu'il prend pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude et la paix. Nous pouvons applaudir pour le Premier ministre, mais si le Premier ministre arrive à Bukavu et qu'il vienne juguler la mafia autour de la frontière, nous dirons que c'est un Premier ministre de la bonne gouvernance et des projets de développement, mais il n'est pas Premier ministre des citoyens congolais.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le réseau provincial des ONG de défense des droits de l'homme, Sud Kivu, demande au gouvernement central d'entamer sans délai le processus de dégagement des gaz méthane et carbonique en sursaturation dans le lac Kivu. Demande formulée lundi dernier à Minova dans un point de presse. Selon le secrétaire exécutif de ce réseau, ce gaz est à 9 mètres de la surface des eaux, ce qui constitue un danger pour les êtres vivants d'après les rapports du groupe d'études environnementales du Congo, GIEC, ainsi. sigle. Pour preuve, plus de 50 chèvres attachées dans différents milieux sont mortes dimanche dernier suite au gaz dégagé par ces lacs, dit Gilbert Mudumbi. C'est pourquoi, ajoute le secrétaire exécutif du Reprodoc, il est urgent que les autorités interviennent pour arrêter les multiples conséquences déjà enregistrées. Les propos de Gilbert Mudumbi sont recueillis par Ezekiel Batumike de la radio communautaire de Bubandano.
Après les enquêtes menées par le GIEC RDC, il a été prouvé que le gaz carbonique arrive déjà à 9 mètres de profondeur de bas vers la surface d'eau. Le récent séisme du mois d'août en cours nous laisse perplexes. Face à cette situation, la population qui vous sienne se demande s'il vaut mieux guérir que prévenir. Il y a exactement 3 jours que nous avons reçu les alertes des populations de Sake, selon lesquelles il y a une cinquantaine de bétails morts asphyxiés après leur alimentation au bord du lac. Le financement de l'unité pilote de Gisenyi de l'ordre de 15 millions de et finalement rwandais à 100% alors qu'ils étaient initialement prévus de partager avec la RDC. Quant au Rwanda, ils ont déjà commencé à exploiter ces gaz. Nous demandons que l'exploitation de ces deux gaz soit forcément une urgence pour les salis de 2 millions d'âmes, car le processus de reboisement peut aller loin pendant que le danger est imminent et ne va pas attendre.
Jitra Kousema, directeur général de Canal Futur Télévision, votre analyse par rapport à cette sonnette d'alarme que tirent ces réseaux d'ONG.
C'est regrettable parce que le gouvernement, notre gouvernement, court toujours derrière les événements et ne procède jamais, presque jamais par anticipation. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et on peut se poser la question de savoir si nous sommes gouvernés lorsqu'on a des messages comme celui-là. Vous le savez, c'est depuis plusieurs années que des spécialistes ont commencé à interpeller tout le monde sur les dangers que court cette zone sismique du Kivu. Et vous le savez, on a souvent dit des ONG qu'elles étaient là pour à la recherche simplement de moyens, c'est des porte-voix de l'opposition ou de puissance occidentale. Mais là, c'est une question claire et évidente. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Que des gens meurent pour qu'on donne de... Et si les gens meurent, c'est alors que vous verrez l'État sortir des milliers d'argent. Le Rwanda a commencé à tirer les gaz depuis combien d'années? Posez-vous la question, combien d'argent le Rwanda a mis à contribution pour faire fonctionner son usine de gaz? Et puis vous le savez bien qu'il n'existe pas une barrière qui dirait, ok, les gaz congolais resteraient ici, on peut l'amener vers...
C'est la même nappe.
Mais c'est la même nappe, c'est la même... Et regardez, je suis même certain que les tuyaux vont plus du côté congolais que du côté rwandais. Combien d'argent? Alors qu'ici, on est capable de trouver 100 millions de dollars pour nous produire des bâtiments surdoués, comme on les appelle ici.
Merci.
Et qu'on n'est pas capable de tirer, non seulement que en tirant les gaz du lac, non seulement que c'est d'abord de l'industrialisation, c'est de l'emploi, mais aussi un problème de santé publique qu'on aura résolu.
Sécuriser les populations riveraines.
Simplement, donc.
Merci, Giscard. Saïl Mbalanga Baudouin, éditeur régional de la Tiopo qui paraît ici à Kinshasa. Les experts affirment que le gaz carbonique dans les golfes de Kabuno, dans les lacs Kivu, est à 9 mètres de la surface des eaux. Et déjà, on déplore la mort de plus de 50 chefs. Vous venez suivre Giscard Kousema qui dit que le gouvernement court derrière les événements au lieu de les anticiper.
Mais le gouvernement, c'est à partir du ministère des hydrocarbures. Je crois que le ministre qui nous suit est entouré par des experts qui doivent rentrer précipitamment là-bas à Goma ou à Bukavu.
Qui ont des informations.
Alors, qui ont des informations. Alors, parce que
c'est le GIEC, oui. C'est un service, oui, qui dépend du ministère de l'environnement, qui a fourni ces données, oui, à ces réseaux d'ONG.
Alors, lorsque les dangers arrivent déjà à 9 mètres de la surface, c'est terrible. Les chèvres commencent à mourir. Mais on ne peut pas arrêter l'hémorragie à ce niveau-là. Non, je demande tout simplement au Premier ministre de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, qu'il se rende aussi là-bas, sur place, avec les experts, pour précipiter la démarche afin qu'il n'y ait pas de débordement. Les chèvres sont en train de mourir et l'homme, non. C'en est trop, hein. Il faut arrêter de voyager à mi-chemin. Et lorsqu'il y a ça ne va pas, le gouvernement a l'obligation d'arranger la situation Parce que nous avons besoin de vivre.
Merci.
Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de produire de l'élite de demain. Vous comprenez, monsieur Dieu.
Merci, madame Solange Lushikoun Simire, éditrice du journal Les Souverains, paraissant avocat pour Sud Kivu. Vous êtes aussi vice-présidente de l'UNPC. Selon les experts, toujours, ils disent que si les gaz carboniques explosent, les conséquences seraient plus que ce qui s'est passé en 1986 au Cameroun sur le lac Nyos. Vous êtes au Sud Kivu. Est-ce que la population des Sakés, la population des Minova sont conscientes, n'est-ce pas, des dangers qui les guettent?
Oui, Guy, je suis convaincu que ces populations sont conscientes des dangers qui les guettent, mais l'État congolais, souvent, il fait comme s'il était toujours absent. C'est comme ça même que les groupes armés se sont formés ici chez nous. Lorsqu'il y a une situation de non-État, les gens se regroupent ensemble pour former un groupe d'autodéfense populaire et après ça devient un groupe armé difficile à juguler. C'est de la même manière. Les populations sont là-bas, abandonnées à leur triste sort. Face à un lac qui contient les gaz méthane et les gaz carboniques et qui sont vraiment un danger pour la population. Mais personne ne vient pour venir en aide au secours de cette population-là. Mais lorsque ce gaz-là aura fait des ravages, ce sont encore ces mêmes personnes qui viendront comme ils l'ont fait à Mutarule. Lorsqu'on a tué plus de 30 personnes à Mutarule, il n'y avait pas, les policiers ne se sont pas manifestés, les militaires non plus. Ils se sont présentés après avec des cercueils pour aller enterrer les morts. Et nous, à l'Est du Congo, je pense que nous n'avons pas besoin de cercueils, nous n'avons pas besoin de l'aide de l'État congolais, mais nous avons besoin que l'État vienne prendre des mesures de sécurité pour la population. Et la même chose concernant les gaz méthane. On se demande aujourd'hui, on a entendu parler des accords signés entre la RDC et des pays limitrophes pour une exploitation commune du gaz méthane dans les lacs Kivu. Le Rwanda a commencé, mais on se demande toujours pourquoi le Congo, lui, ne décolle pas.
Voilà, Madame Solange, selon le GEC, c'est le groupe d'études environnementales du Congo, c'est un service qui dépend du ministère de l'Environnement. Selon donc ces services-là, les gaz méthane dans le lac Kivu sera exploité lorsqu'on aura mené toutes les études à impact environnemental, parce qu'ils estiment que cela exigerait, donc l'exploitation de ces gaz exigerait une haute technologie, parce que lorsque vous exploitez ces gaz méthane, il monte avec les gaz carboniques dont le recyclage est difficile et donc il faut chercher à savoir ce qu'on fera, n'est-ce pas, de ces gaz carboniques quand on l'aura séparé du gaz de méthane. Voilà, c'est ça le point de vue du GEC.
Mais Guy, je vais te poser une question comme si tu étais du gouvernement, même si tu es mon confrère. Si c'était l'or, le diamant ou le coltan qu'il y avait à Birava, et que c'était un gisement tout à fait très intéressant, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait des avions qui descendraient à Goma pour aller voir ce qui se passe là-bas, en provenance de Kinshasa, donc les membres du gouvernement? Mais il n'y a personne qui bouge aujourd'hui. Et tout cela, ça montre que nous avons un intérêt en République démocratique du Congo toujours tourné vers l'argent et non dans la prévention. Il y a nécessité extrême, nécessité de prévenir les risques qui sont liés à l'explosion du gaz méthane dans les lacs Kivu. Aujourd'hui, si le méthane commence à mourir à cause de la présence du gaz carbonique, imaginez-vous ce que sera le sort des humains lorsque, avec le mouvement sismique, lorsqu'il y aura peut-être les communications entre le séisme et le gaz méthane qu'il y a dans les lacs Kivu, lorsqu'il y aura peut-être incendie dans l'une des stations à essence qui sont le nom du lac Kivu et que le feu pourrait arriver jusque dans le lac Kivu, imaginez-vous ce que cela pourrait représenter comme fatalité pour nous.
Merci madame. J'espère que vous avez suivi les points de vue les précisions de GEC, qui est un service qui dépend du ministère de l'Environnement. L'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu exigerait une haute technologie.
Mais écoutez, le problème, la technologie, c'est vient avec l'argent, et l'argent, le pays, là. Le problème ici, un problème de vision politique et même des volontés politiques. Quel peut aujourd'hui être le sentiment d'une population qui ne se sent pas protégée par ses dirigeants? À plusieurs reprises, surtout en ce qui concerne la partie est de la République, le gouvernement a montré toutes les preuves de son désintéressement à toutes ces questions sécuritaires, et maintenant ce sont même des questions existentielles. Donc c'est comme si le pouvoir s'est contente de voir cette population disparaître. On en compte déjà 6 millions en une dizaine d'années. Donc s'ils ne meurent pas des guerres, ok, ils peuvent mourir maintenant du gaz méthane.
Non, alors, selon le GIEC, le gouvernement congolais a déjà pris contact avec un consortium français pour procéder au dégazage du golfe des Kabuno dans les lacs Kivu, là où se trouvent les gaz carboniques, et ils les annoncent que avant la fin de cette année, les travaux vont commencer.
Les études sont toujours là. Ce sont le pot de vin peut-être qui retarde le travail. C'est un problème de volonté politique. S'il y a une volonté, on peut amener cette technologie qui permettrait non seulement, comme je l'ai dit ici, à créer une nouvelle énergie avec les gaz qu'on va prendre sur les lacs, mais à sauver surtout des vies humaines. C'est même l'occasion, ne fût-ce que cela, que cette population se sente tout de même protégée.
Qu'est-ce qu'il faut pour sauver ces vies qui sont exposées?
Une volonté politique d'abord et un engagement clair. Au lieu de dépenser des milliers de dollars pour des conciliambules, pour des compromissions, pour le partage équitable et équilibré du pouvoir, pour le glissement, une transition ou tout ce que vous voulez, il y a moyen de prendre cet argent-là, de le mettre au service de tout le monde, ne fût-ce que pour sauver des vies humaines. Entre-temps, on aura, comme je l'ai dit, si importé de nouvelles technologies, créer de l'emploi et essayer de faire comme les autres, le Rwanda, qui n'a même pas la surface d'un diocèse congolais. À quel moyen pour
merci,
tirer ces gaz?
Baudouin Saïlé Mbalanga, l'explosion des gaz carboniques est imminente, hein, selon les experts. En attendant que le travail des dégazages s'efface, que faut-il dans l'immédiat, n'est-ce pas, pour mettre à l'abri toutes ces populations environnantes, les populations qui sont à Goma, qui sont à Minova, qui sont à Sake?
Mon frère, moi je m'étonne souvent que, même s'il y a des guerres d'agression, c'est toujours à l'Est. Depuis 64, rébellion, 64, rébellion, 67 avec Sangani, 69, rébellion, 2000, rébellion. Des groupes étrangers sont venus nous attaquer, etc., ont tué les gens, etc. Aujourd'hui, c'est toujours l'Est, Bukavu, avec le problème des gaz méthane, etc. Non, que le gouvernement prenne toutes les solutions possibles pour maîtriser ces gaz-là par rapport à ce qui est fait pour Ebola. Le gouvernement a maîtrisé Ebola, le gouvernement a la possibilité de maîtriser la situation qui devient de plus dangereuse. Lorsque l'ennemi est à 9 mètres, mon cher ami, il faut prendre des dispositions pour l'arrêter, sinon il sera impitoyable et va vous en matraquer davantage. J'ai confiance au gouvernement de la République, que le gouvernement de la République mette du paquet pour maîtriser ces problèmes de gaz carbonique et gaz méthane. Les chèvres sont en train de mourir. Non, nous ne voulons pas que la population laisse toujours à mourir. Mais jusqu'à quand? La République a besoin des mains expertes. La République a besoin de l'élite. La République a besoin des gens qui savent travailler. Vous comprenez? S'il y a des problèmes qui surgissent, c'est la République toujours qui doit prendre l'engagement. Merci. Et arrêter l'hémorragie.
Madame Solange Lushiku Simire, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut-il faire pour qu'immédiatement, n'est-ce pas, on mette à l'abri ces populations qui sont exposées?
Oui, la première chose en tout cas, je voudrais inviter tous les Congolais ainsi que tous les amis du Congo qui nous suivent en ce moment de nous aider à contraindre l'État congolais, donc tous les décideurs congolais à agir. Nous risquons de mourir par asphyxie mortelle liée à une catastrophe que pourtant on peut prévenir si le gouvernement congolais le veut. Les gens ont comme l'impression qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Pourtant, nous savons que quand on parle du gaz méthane, on parle aussi de son accompagnateur qui est le dioxyde de carbone, et on nous dit qu'il est plus mortel que le gaz méthane. Alors, qu'est-ce qui serait urgent pour nous? C'est de prévenir des éventuelles catastrophes naturelles
en République démocratique du Congo.
Merci.
Parce que nous savons tous que la dangerosité du gaz, méthane, du lac, avec tout ce qu'on connaît, liaison avec les mouvements sismiques, parce que ces derniers temps, c'est chaque mois qu'on a des menaces de séisme. Donc, à tout moment, tout peut nous arriver.
Merci, madame. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Ritier Sijakala qui était à la technique, à Kélin Koussé à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.